Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Les mots des livres. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h, je suis Laurence. Au programme, une invitée, Charlotte Monégier, qui va nous parler de son dernier roman, Le Passage du Nord-Ouest. C'est paru l'édition Calman Lévy dans la collection Ancrage. Puis nous évoquerons dans une seconde partie d'émission d'autres ouvrages, notamment un roman étranger, de la littérature jeunesse et de la bande dessinée. Un programme à retrouver sur notre blog lesmots-deslivres.over-blog.com et également sur edfm98.fr. Et juste avant d'entrer notre invité, un peu de musique. À tout de suite.
Tu me restes. IDFM Radio, le média valdoisien.
Et nous retrouvons notre invitée Charlotte Monégier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre dernier roman. Il s'intitule Le passage du Nord-Ouest. C'est paru aux éditions Calman Lévy dans la collection Ancrage. Mais avant d'évoquer ce titre, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler, c'est pas votre premier roman ?
Non, ce n'est pas mon premier roman. Alors, c'est le second publié aux éditions Calman Lévy. Et le quatrième roman que je publie, si je compte effectivement les autres éditeurs avec lesquels j'ai travaillé par le passé.
Alors vous êtes professeur de lettres, si je ne dis pas de bêtises également.
Et, tout à fait.
Et vous nous proposez une histoire à la fois poignante, attachante, notamment pour ses personnages principaux que sont Ludivine et son fils, Simon. Une histoire assez d'actualité, hein, parce qu'on en parle beaucoup. De ces violences conjugales, de ces violences faites aux femmes et de la manière dont certaines essayent, tentent et arrivent à se sauver du foyer familial où malheureusement elles risquent, ces femmes et leurs enfants, leur vie, hein, à chaque jour qui passe. Alors déjà, est-ce qu'on peut, avant de parler de ce passage du Nord-Ouest, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est venue l'idée de ce roman ?
Alors, comme vous l'expliquez, effectivement, c'est un sujet d'actualité, un sujet qui me touche particulièrement, je pense, comme beaucoup d'autres femmes et d'hommes. Donc, j'avais vraiment envie de raconter une certaine manière de fuir, une certaine manière de disparaître pour se sauver. Ludivine, c'est vraiment une femme qui, pour survivre, doit disparaître. Et c'est vraiment au cœur du roman. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager plus jeune, donc je voulais mêler à la fois ce thème des violences conjugales, des violences faites aux femmes et la route que l'on prend pour s'enfuir, pour aller vers soi également et pour surtout se sauver.
Et c'est ce qui va arriver parce que Ludivine va avoir un peu cet instinct de survie pour elle et son fils. Et parce qu'il n'y a pas que son fils, il y a vraiment aussi un passé, hein, qui l'empêche, hein, de s'en sortir. Et elle va, grâce donc à l'intermédiaire d'un réseau, parce que on en parle par moments dans l'actualité de ces hommes, de ces femmes, souvent des bénévoles, hein, qui donne la possibilité de se fondre dans l'anonymat, je ne sais pas si l'expression est bien correcte, mais en tous les cas de disparaître de son passé afin de continuer à vivre en toute sécurité. C'est ce qu'on découvre, hein, dès le début. Elle va avoir cette chance de s'enfuir.
Voilà, tout à fait. Alors qu'elle fait ses courses au marché, un jour tout à fait habituel, elle fait la rencontre d'une femme très mystérieuse qu'elle n'avait encore jamais vue auparavant et qui lui tend une carte. Et sur cette carte, il y a un numéro de téléphone et c'est le contact d'un réseau, comme vous le disiez, un réseau qui aide les gens en danger, les personnes en danger comme elle, à disparaître. Simplement, Ludivine et Simon, donc lorsqu'ils s'enfuient, ne vont pas rester en France dans une forme d'anonymat, mais partir jusqu'en Inde à Pondichéry. Et là va débuter un très long voyage pour eux deux jusqu'à ce passage du Nord-Ouest très énigmatique.
Oui, parce qu'il est question au début de cette image du passage Nord-Ouest, page 24, à la radio, sur France Inter, il y a ces mots, passage du Nord-Ouest, c'est la route que prenaient les bateaux pour quitter l'Atlantique, rejoindre le Pacifique par l'extrême nord du continent américain. Les Espagnols l'ont d'abord baptisé le détroit d'Anion, en référence à Anya, une province chinoise mentionnée par Marco Polo dans son ouvrage Le dévissement du monde. Il pensait que ce canal reliait le golfe du Saint-Laurent à la basse Californie, enfin, etc., etc., etc. Et c'est un chemin de fuite, un espace resserré parmi les fjords du Canada. Et c'est là où, juste après, la narratrice qui parle à la première personne dit « J'oublie Mike et sa violence. J'oublie les ecchymoses qui tachent mes cuisses et je me rappelle, moi aussi j'ai voyagé, découvert, avancé seul avec mon sac à dos Et là, on sent que ces quelques mots entendus à la radio vont être un déclencheur également de cette idée que tout peut arriver, qu'elle peut s'échapper, qu'elle peut avoir une autre vie ailleurs. Et notamment, ça va être cette destination, ce passage du Nord-Ouest qui va être son objectif.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, Ludivine, un jour, écoute une émission de radio dans laquelle est présenté ce passage du Nord-Ouest et ça lui rappelle sa jeunesse, ses 20 ans, alors qu'elle-même voyageait, qu'elle-même était libre d'une certaine manière et qu'elle-même était amoureuse d'un homme qui, lui, la traitait bien et la respectait. Et c'est exactement ce que vous venez d'expliquer, ça va créer une forme de déclic, ça va la pousser à appeler justement, à téléphoner à ce réseau et à disparaître avec son fils Simon. Donc le passage du Nord-Ouest, c'est à la fois un passage réel, vraiment géographique, donc qui existe, et en même temps, ça va devenir une forme de quête pour Ludivine et son fils Simon, une quête vraiment vers la rédemption, la liberté, la tranquillité. Et pour cela, ils vont parcourir des milliers de kilomètres.
Alors, votre ouvrage, justement, il est en plusieurs parties. Vous évoquiez Pondichéry, c'est déjà la partie 3. On est à presque pas la moitié du livre, mais on sent que avant d'arriver à Pondichéry, il va s'en passer des choses dans la tête et dans le corps de votre héroïne, parce que c'est finalement une héroïne, parce qu'elle va prendre sous son bras son fils, alors que c'est une, entre guillemets, une simple femme. Elle n'a pas plus de pouvoir, plus de relations, plus de force que cela. Et c'est ce que elle va se confronter à ça pendant cette fuite.
Oui, alors elle puise sa force dans sa maternité. C'est exactement ça. C'est une maman et c'est ce qui va lui donner le courage d'avancer, le courage de se sauver. Parce qu'elle est en danger avec son mari, elle est en danger aussi avec son passé, son héritage familial et son fils également. Et donc vraiment le fait d'être mère, c'est ce qui va la faire avancer et lui donner effectivement cette envergure qui lui manquait, probablement.
Alors, vous parlez de Pondichéry, vous évoquiez ces lieux hein, qu'on va découvrir au fil des pages. On ne va pas tout dévoiler parce qu'on va laisser quand même nos amis auditeurs découvrir hein, ces différentes escales. Et vous avez choisi donc le jeu narratif, mais pas que, vous avez aussi choisi la poésie.
Oui, alors effectivement, il y a une double histoire en quelque sorte. Il y a le récit et les vers, la poésie. Moi, j'aime beaucoup la poésie. J'en écris beaucoup également, et je trouve ça vraiment intéressant. J'ai trouvé ça intéressant de mêler dans le roman les pensées, les émotions de la narratrice en les exprimant en vers. Donc, effectivement, il y a parfois un léger décalage, comme si effectivement le récit nous offrait la possibilité de découvrir la réalité. La réalité du roman, et les vers peut-être quelque chose de plus intérieur, de plus imaginaire, mais peut-être aussi de plus juste. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire.
Et justement, des fois, c'est Simon qui ramène un peu sa mère à la réalité, lorsque justement on lit ces vers de poésie. D'un coup, il y a Simon qui apparaît et on voit le jeu de la maman qui rappelle « Ah ben oui, je suis là, il faut que j'arrête de rêver » ou au contraire, voilà, je n'ai pas le temps de rêver davantage et là, tout de suite, on revient dans la réalité.
Oui, oui, alors effectivement, Simon, c'est la force de Ludivine, mais c'est également un point d'ancrage, un vrai ancrage. Et Ludivine, même si effectivement le roman ne raconte pas de manière crue les sévices, les violences qu'elle a subies, c'est une femme qui a été violentée et qui a subi tout ça, et elle souffre d'une forme de dissociation. Souvent les victimes de violences justement souffrent de ça, c'est-à-dire qu'elle a elle a la capacité, malgré elle, de quitter son corps pour ne plus ressentir. Et c'est devenu une rêveuse, c'est devenu une poétesse. Et c'est une femme qui parfois s'envole et son fils est là pour la rattraper. C'est exactement ça.
Et il est question justement de cette dissociation au chapitre 3 de la première partie, lorsque elle se fait agresser par son conjoint. Justement, il y a ce « je les garde », ces fameuses larmes, « je les garde ». Et il y a des, enfin, on va laisser nos amis auditeurs le découvrir, mais telle une litanie, elle déclame des vers de sa souffrance. Et c'est à la fois formidable, c'est très poignant parce que on se met à la place de cette femme qui, évidemment, est violentée par son conjoint. Et on a l'impression qu'elle est dans un cercle vicieux, qu'elle ne pourra pas s'en sortir. Et heureusement pour elle, il y aura cette possibilité. Et on va donc se dire que, enfin, elle va avoir la liberté et un peu de sérénité, un peu de bonheur. C'est pas si évident que ça, parce que tout le parcours que vous allez nous raconter dans ce voyage va être pavé de rencontres, mais aussi de fatigue, d'épreuves.
Oui. Effectivement, c'est une très longue route qui attend Ludivine et Simon jusqu'à ce passage du Nord-Ouest, donc réel et imaginaire, intérieur et extérieur, comme je disais tout à l'heure. Et cette poésie, en tout cas cette facilité qu'a Ludivine de s'échapper de sa réalité, quelque part, moi je trouve qu'elle correspond à... C'est comme la contrepartie, si je puis dire. Elle est blessée et en même temps, grâce, si je puis dire, ou à cause de ses blessures, elle a pu trouver cette forme de poésie et elle a toujours ça en elle. Donc ça, c'est vraiment une image d'espoir. Et donc malgré toutes les épreuves qu'elle va traverser, les rencontres parfois très très intéressantes et constructives et parfois un petit peu moins, elle va conserver ça justement, cette poésie là et c'est aussi une force. Il y a son fils, mais il y a aussi cette poésie.
Oui, et jusqu'au bout, même au moment des remerciements, vous parlez des fantômes, et jusqu'à la dernière ligne, on a cette idée du fantôme, on va pas en dévoiler davantage, mais c'est très poétique, là encore, cette image d'esprit, de personnage que l'on essaye d'atteindre et qui parfois n'est là qu'en songe, qu'en rêve. Là encore, ça renvoie donc à l'imaginaire, à la poésie et aussi au fait que Ludivine, même si elle arrive au bout du bout, peut-être qu'elle n'aura pas toujours trouvé celui qu'on croit, mais quelqu'un d'autre qui est tout aussi important. Parce que finalement, c'est aussi un roman d'émancipation, d'apprentissage pour elle, parce qu'elle va arriver au bout d'un chemin qui va peut-être lui permettre à elle et son enfant d'enfin vivre avec liberté. Et c'est ce qu'on va découvrir à la lecture du passage du Nord-Ouest, un roman magnifique qui, je pense, devrait être lu par beaucoup d'hommes et de femmes. Je dis d'hommes parce qu'il est question évidemment de la souffrance féminine, mais c'est aussi un enfant, Simon, qui va être un futur homme et qui est important aussi d'apprendre dans l'éducation à comment se comporter avec les femmes pour pas qu'ils reproduisent le schéma.
Oui, alors Simon, effectivement, c'est un très jeune garçon. Il a 6 ans au tout début du roman, il en a presque 8 à la fin. Et quand même, je voulais aussi préciser que Ludivine a la chance de rencontrer des hommes merveilleux sur sa route qui vont l'aider à avancer. Et c'est notamment grâce à certains de ces hommes que la route, elle va prendre la forme d'une guérison, en quelque sorte. Donc voilà, il n'y a pas que de méchants hommes, et il n'y a pas que cette violence. Ce roman, moi, je n'ai pas écrit uniquement pour les femmes. C'est quelque chose d'assez universel. Cette violence-là, je pense qu'elle touche tout le monde.
Il n'y a pas de schéma manichéen où effectivement l'homme est le méchant. Non. Il y a des rencontres d'hommes, et puis elle-même, Ludivine, a dans ses expériences passées de magnifiques rencontres dont il est question jusqu'au bout du roman et qui est magnifique. J'imagine, Charlotte Monnet-Jay, que quand on a écrit qu'on a fini d'écrire un roman, il ne vous appartient plus, il appartient au lecteur. Est-ce que ces lecteurs pourront vous retrouver lors de rencontres, de dédicaces?
Oui, tout à fait. Alors, il y a une rencontre qui est prévue donc à Paris, étant moi originaire de Paris, dans une librairie du 17e, le jeudi 28 mai. Donc, ça va arriver très rapidement. Donc, voilà, l'idée, c'est de se rencontrer, de discuter du livre et de fêter cette sortie.
Ah bien, c'est noté. Est-ce que également on peut vous retrouver, pour celles et ceux qui n'auront pas la chance de se rendre à cette rencontre, via les réseaux sociaux?
Oui, je suis sur Instagram et assez active. Donc voilà, je partage sur Instagram de nombreux textes, extraits, des actualités, des photographies, voilà.
Ah bien, c'est noté. Et dernière question. Avez-vous un autre ouvrage, un manuscrit sous la plume, ou c'est encore trop tôt pour en parler?
Oui, 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 je suis en train de terminer un prochain roman. Voilà, je n'ai pas l'habitude de trop parler des histoires que je suis en train d'écrire, mais en tout cas, il est presque terminé. Donc voilà, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir beaucoup de temps pour écrire et j'essaie de m'y consacrer dès que je peux. Donc voilà, il y a toujours plein de projets, de romans, de poésie et de nouvelles également.
Ah, du coup, on en saura plus à sa sortie, qui serait éventuellement dans l'année, ou c'est trop...
Probablement dans l'année, oui.
Très bien.
Probablement.
Eh bien, en attendant, on va lire Le Passage du Nord-Ouest, à retrouver chez Tout Bon Libraire. C'est paru aux éditions Kalman-Lévy dans la collection Ancrage. Et puis, on l'a compris, on peut vous suivre sur Instagram et vous rencontrer très prochainement. Et puis, évidemment, on vous souhaite plein de belles rencontres et un beau succès en librairie, en attendant la suite de votre... travail d'écrivaine aux éditions Kalman-Lévy. J'espère avoir tout dit et puis encore merci à vous d'avoir passé ces quelques minutes avec nous.
Bah, merci à vous de m'avoir reçu, c'est très aimable.
Merci, au revoir.
Au revoir, bonne soirée.
Merci, au revoir.
C'est pas le temps. Le temps qui va user ma carcasse. Le temps il se lassera bien avant moi. Te barre pas, tu verras. C'est écrit sur ma peau, je suis made in rock'n'roll. C'est pas le vent des mauvais qui passe. Que c'est pas le vent des mauvais qui passe. Le vent il va tomber bien avant moi. Qui me fera tenir en place. C'est pas l'argent qui me fera tenir en place. L'argent il s'épuisera bien avant moi. Te barre pas, tu verras. C'est écrit sur ma vie, je suis made in rock'n'roll. Made in rock'n'roll. Oui, made in rock'n'roll. Le
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et comme ce sont les vacances, l'heure pour moi de parler de nouveau d'un livre qui m'a vraiment beaucoup plu en ce début d'année et dont je vais vous reparler aujourd'hui, car si vous avez l'occasion d'avoir un bon moment de lecture à glisser dans votre valise ou lors d'une balade, c'est La dernière enquête de Penny et Joséphine, parue aux éditions du Cherche Midi par l'autrice britannique C.G. Wray. Alors l'histoire, elle est très simple. Vous prenez deux nonagénaires complètement déjantés à la sauce british et vous les emmenez à Paris. Mais c'est pas que ça. En fait, ces deux femmes, elles ont plus de 80-90 ans. Elles ont eu leurs heures de gloire pendant la Seconde Guerre mondiale parce que c'était des vraies héroïnes. Et forcément, après-guerre, eh bien, le quotidien était des plus banals. Alors, elles ont fait des 400 coups presque, jusque donc à notre époque, parce que ça se passe, l'histoire se passe de notre époque avec plein de flashbacks. Et qui s'occupe de ces deux femmes très loufoques, et bien c'est Archie. Archie, c'est leur neveu. Oui, parce que Penny et Joséphine, ce sont deux sœurs qui vivent ensemble à Londres. Et Archie, c'est leur petit-neveu qui s'occupe comme il peut hein, de ces deux grand-tantes et qui sont toujours aussi drôles, loufoques, déjantées, tous les mots que vous voulez. Parce qu'en fait, elles veulent profiter à fond de la vie. Est-ce que c'est un masque pour se cacher d'une vraie réalité vécue justement pendant cette Seconde Guerre mondiale et les années suivantes, c'est ce qu'on va découvrir. Parce que Paris va les inviter, ou plutôt le gouvernement français va les inviter afin de leur décerner la Légion d'honneur. Alors évidemment, Archie est super enthousiaste. Il emmène donc ses deux tantes à Paris. Sauf que ça va pas se passer tout à fait comme prévu. Il va y avoir une fameuse enquête, parce qu'il va y avoir une vente aux enchères où une des deux sœurs va reconnaître un bijou de famille. Forcément, ça va nous replonger dans les années 30 à Paris. Et l'enquête, justement, cette fameuse dernière enquête qui a donné le titre du roman, c'est formidable. Il est question donc de mystère, de vengeance, d'amour de jeunesse, tout ça en se repositionnant, donc 80 ans en arrière. Les deux personnages sont formidables, ces deux femmes. Il y a donc de l'humour, de la petite histoire dans la grande histoire. Un roman qui devrait ravir tous celles et ceux qui aiment l'humour à la sauce britannique. Et puis surtout, une plume C.G. Wray est formidable. J'espère que d'autres romans paraîtront prochainement de cette autrice. Et si vous voulez en savoir plus, un site, cherchemidi.com, c'est le nom de l'éditeur, cherche-midi.com. Et de titre, je vous le rappelle, La dernière enquête de Penny et Joséphine.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux d'étang sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux.
J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule, où des bras me serrent.
J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras,
qu'importe ma place, qu'importe l'endroit.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Les mots des livres. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h. L'heure pour moi de vous parler d'un petit ouvrage qui devrait beaucoup plaire aux enfants à partir de 6 ans, car il évoque l'amitié, l'aventure, les animaux, la différence. Et puis la nature et les animaux, donc ça je l'ai déjà dit, mais aussi les farces. Alors ça fait partie de la collection e-book des éditions La Joie de Lire, où on avait déjà évoqué ensemble La Folle Idée de Suzette Lamouette. Et bien là c'est Gaspard et Hamlet qui nous sont racontés par Alice Keller, illustrés par Véronica Trutereau. Alors c'est une histoire d'amitié assez surprenante entre donc Gaspard, une grenouille, et Hamlet, un hérisson, que tout oppose jusqu'au jour où il décide de s'allier pour voler un trésor. Alors évidemment, c'était au départ impossible pour ces deux-là de s'entendre, et ce, dès leur première rencontre. Tout commence par une formidable bagarre au bord de l'eau, quand ni l'un ni l'autre ne sait encore qu'ils vont se retrouver sur les mêmes bancs d'école quelques jours plus tard. Malgré les protestations de l'un, la maîtresse est catégorique. Il sera le guide de l'autre. Alors ils enchaînent les farces et les croche-pattes l'un envers l'autre, jusqu'au jour où Gaspard doit se rendre à l'évidence. Hamlet pourrait bien lui être utile pour mettre la palme sur la boîte à bonbons de la maîtresse. Alors ces deux-là vont-ils réussir à s'entendre et mener à bien leur plan? Bref, un roman où se mêlent humour et tendresse, dont les plus jeunes qui débutent l'apprentissage de la lecture devraient se régaler. Je vous rappelle le titre, Gaspard et Hamlet, c'est paru aux éditions La Joie de Lire. Si vous voulez en savoir plus, lajoiedelire.ch. Toujours dans cette maison d'édition, je vous propose, pour un public un peu plus ado-adulte, Trois fois rien de Catherine Tinivella Eschmann, et c'est illustré par Jeannot. Alors c'est un roman graphique où les questions de maladie mentale, de dépression, voire de suicide, il est aussi question d'adolescence, de relations mère-fille. Et c'est l'histoire de Nat. Quand sa mère lui offre un cahier, Nat décide d'y écrire la grisaille de son quotidien pour que la tristesse ne reste plus que sur la page. Elle raconte donc sa vie de tous les jours, son amie Ariane, son cœur qui balance entre Alex et Nicolas, et puis surtout sa mère, qui se fait aussi appeler Nat et dont ce n'est pas le prénom. Au fil des mois, la mère de l'ado occupe de plus en plus de place, car ses sautes d'humeur, sa dépression chronique et les tensions qui se muent en chantage affectif. Il y a bien le père de la jeune fille qui essaie de maintenir la stabilité dans ce trio familial, mais il ne voit pas tout, ne comprend pas tout et surtout ne peut pas être toujours présent, la jeune fille. Donc elle essaie de concilier les petits et grands tracas inhérents à son âge, les compétitions de tennis et ce qui se passe à la maison. Mais malheureusement, le fardeau devient de plus en plus lourd sur les épaules de cette adolescente. Ce qui est très bien décrit dans ce texte, qui est loin d'être dans le pathos, hein, c'est ce rapport à la mère qui est très difficile parce qu'il y a cette maladie mentale. Les illustrations de Jeannot soulignent d'ailleurs avec beaucoup de délicatesse cette fragilité, la tourmente des personnages, et puis l'écriture et le dessin qui dialoguent pour faire résonner notamment les silences de la souffrance et cette image de la parentalité plutôt instable. C'est très bien fait. Alors les dessins sont crayon de couleur, crayon à papier pastel gras, et évidemment l'écriture de Catherine Tinivella Eschmann est formidable. On lui doit précédemment d'autres titres, elle a déjà reçu des prix, notamment pour des textes sur la jeunesse. Trois fois rien évoque d'ailleurs un triptyque sur la disparition, et c'est pour ça que je vous propose cette lecture aux éditions La Joie de Lire. Précédemment il y avait Le Pire Truc, et pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, franchement, allez sur le site lajoiedelire.ch, vous cliquez sur Trois fois rien, vous en saurez plus sur ce roman graphique destiné donc aux ados adultes. C'est un petit bijou dans la collection Somnambule. Et on se retrouve juste après ça.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main. C'est la fin,
Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve tous les samedis et les dimanches entre 11h et midi sur les ondes de IDFM Radio.
Balade musicale avec Christophe Gravero sur IDFM Radio.
Bonjour, c'est Jacqueline Voraz sur IDFM Radio. Retrouvez-moi tous les mardis et vendredis matin de 9h30 à 11h dans l'économie en direct. Une émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux artisans, aux associations, aux élus, aux instituts de formation. Bref, à tous ces passionnés qui participent à la vie économique ou politique du territoire. Alors, pour en savoir plus, n'oubliez pas, rendez-vous le mardi et vendredi de 9h30 à 11h dans l'économie en direct sur IDFM Radio.
Explorez les mystères du cosmos avec Franck, votre guide céleste dans À toi les étoiles. Tous les troisièmes dimanches du mois, de 13h à 14h, plongez dans l'astronomie et l'astronautique. À toi les étoiles, l'astronomie à la radio, l'émission sérieuse mais jamais ennuyeuse, où les étoiles révèlent leurs secrets. Rendez-vous avec Franck le troisième dimanche de 13h à 14h. Parce que rêver d'explorer l'espace, c'est déjà commencer le voyage.
Retrouvez la matinale du lundi au vendredi de 7h à 9h30. Toute l'actu locale, la météo, l'horoscope, l'album de la semaine, des cadeaux à gagner et l'invité du jour avec Christophe sur IDFM Radio. IDFM Radio, le média valdoisien.
Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Les mots des livres. Nous sommes en direct jusqu'à 19h. On parcourt les sorties de littérature pour la jeunesse avec Mes vacances presque ratées de Marc Dagneau et François Sens. C'est paru aux éditions Seuil Jeunesse. Ça fait partie de la collection Le Grand Bain qui est de retour avec ce road trip à la fois déjanté et hilarant. C'est l'histoire du Ulysse. Ulysse, il a pris la route des vacances avec une grand-mère fantasque et son carlin baveux. On dit souvent que dans le voyage, ce n'est pas la destination qui compte, vous savez, c'est le chemin parcouru. Et les détours surtout, car Ulysse va en connaître de nombreux lors de ce voyage, ce road trip déjanté, qui va nous mener évidemment par là où nous pensions, c'est-à-dire Ulysse et sa grand-mère vont vivre mille et une aventures qui vont les rapprocher heureusement et nous faire beaucoup rire, car c'est un roman trépidant qui célèbre l'imprévu et l'imagination. Ce qui est formidable, c'est la touche du BDiste François Sens, qui... fait beaucoup penser donc à cet univers où les illustrations parlent presque plus que les mots. Et ce qui est formidable, c'est qu'on retrouve les visages très marqués d'un ado qui, évidemment, a beaucoup de mal à vivre ses aventures, plutôt mes aventures. Et le personnage fait beaucoup penser aussi au personnage de manga. Mais ça, c'est juste une impression. Et si vous voulez en savoir plus, sachez que François Sens, d'ailleurs, a reçu un prix pour sa bande dessinée et son scénario précédente, soit avec Soigne, Maltraite et Tais-toi. C'était il y a déjà quelques temps. Et là, je vous propose de découvrir ce roman illustré, je vais y arriver, de Marc Dagneau, où on rit beaucoup et on partage les mésaventures de Ulysse en se disant et en se projetant que c'était un peu chacun de nous qui a raconté. C'est destiné aux enfants à partir de 8 temps. Et pour celles et ceux un peu plus jeunes qui aiment l'univers des sorcières, eh bien Christine Rousset vous propose Pas encore une histoire de sorcière. Alors après les licornes, les dragons, eh bien l'autrice s'attaque à la figure de la sorcière. Vous savez, cette créature que beaucoup d'enfants adorent, et pour cause. C'est paru aux éditions La Matinière Jeunesse, c'est un album. Et ici, on va découvrir Scarmosa, qui est la sorcière avec plein de A à la fin, plein de R aussi et de Z. C'est la sorcière la plus nulle, la plus moche, la plus terrifiante que le monde ait connue. Avec sa verrue sur le nez, son chat gros relou, c'est son nom, et puis ses pieds qui puent, elle prépare sa potion dans sa cabane, bien loin au fond des bois. Mais attention, c'est pas que ça, parce qu'entre formules magiques loufoques, rebondissements inattendus, eh bien dans ce récit, vous allez retrouver de l'humour, de la trente, ce qui prouve que même les sorcières les plus affreuses peuvent réserver de grandes et belles surprises. C'est tendre, c'est drôle, c'est que pour que les enfants bien voient au-delà des apparences et ainsi cultivent le sens du discernement, et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Alors celles et ceux qui vont adorer Pas encore une histoire de sorcière, eh bien vont se précipiter pour celles et ceux qui ne connaissaient pas encore cette série, pas encore une histoire de licorne, pas encore une histoire de dragon, toujours dans cet esprit aussi drôle et pédagogique que nous propose Christine Rousset, qui donc fait cet album pour les 4 ans et plus. C'est toujours dans cet univers de drôles de créatures. Je vous propose une histoire illustrée des légendes urbaines. C'est un documentaire pour les 9 ans et plus aux éditions de la Martinière Jeunesse que l'on doit à Adam Alsug-Bordman. Et vous allez retrouver dans cet univers des empreintes de pas dans la forêt, des images floues de créatures étranges, voire des rumeurs d'appels funestes. C'est donc dans ce théâtre de mystère où il y a beaucoup de frissons que nous proposent ces auteurs, donc Adam Alsug-Bordman, et j'ai pas précisé, il y a aussi Philippe Baudouin. Alors, ici, les légendes urbaines, de quoi s'agit-il? Eh bien, souvent, elles prennent naissance en ligne ou autour d'un feu de camp, mais elles fleurissent partout. Vous avez le Yeti. Vous avez des jeux vidéo hantés, des clowns maléfiques, vous avez des disparitions mystérieuses d'autostoppeurs, bref, les férus de paranormal, les cryptozoologues cherchent à expliquer l'inexplicable. Eh bien, dans cet ouvrage, dans cet album documentaire, qui se lit comme une encyclopédie illustrée, les deux auteurs font revivre ces légendes urbaines d'hier et d'aujourd'hui. Alors évidemment, sachez que vous allez en découvrir ou en redécouvrir, mais que quoi qu'il arrive, votre armoire ne cache pas de monstres et le ciel est bien dégagé, parce que c'est très important, tant vous allez découvrir un univers parallèle. Alors Adam Alsug-Bordman, donc qui est l'illustrateur, eh bien vous nous avez déjà fait découvrir une histoire illustrée des ovnis. Et une autre, une histoire illustrée des fantômes. Donc vous l'avez compris, il maîtrise parfaitement son sujet, c'est formidable. Et franchement, de 9 ans à 99 ans, on découvre beaucoup beaucoup de choses, car on le rappelle, les légendes urbaines ont toujours existé. Ça ne s'appelait pas comme ça il y a un siècle, mais on l'appelait ça des rumeurs, des histoires, bref. Et bien là, on replonge avec délice dans une histoire illustrée des légendes urbaines aux éditions La Martinière Jeunesse. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le site des éditions Seuil, seuil.com. Et avant de se quitter, je voulais vous parler d'une magnifique histoire, celle de Louis Hachette. Alors ce sont Maëline au scénario et Maëlle Martial au dessin qui vous proposent cet album aux éditions Marabule. On découvre la vie de cet homme, Louis Hachette, un homme déterminé qui a su s'appuyer sur les évolutions du 19e siècle pour tout simplement révolutionner le monde de l'édition. On est donc au 19e siècle, il s'appelle Louis Hachette. Il veut transmettre sa passion pour le savoir en l'enseignant à l'université. Mais alors qu'il parvient à entrer à l'école normale supérieure, le gouvernement ferme les portes de l'école. On est en 1822. Il enseigne, puis fonde quelques années plus tard la librairie Hachette, crée des collections populaires, investit les gares, collabore avec les plus grands auteurs et transforme la lecture en outil d'émancipation. Entre douleurs intimes, il en est question. Bouleversements sociaux, alors là, il en est vraiment question. C'est ce parcours incroyable d'un homme passionné de lettres qui va révolutionner l'édition française. Alors aujourd'hui, où l'on parle beaucoup du déclin, notamment de la jeunesse pour la lecture, c'est l'occasion de se replonger dans les convictions, dans les valeurs d'un homme qui voulait à tout prix, par la lecture, émanciper les masses, les populations, les hommes et les femmes. Et c'est ce que nous racontent avec Maestria, Maëlle Martial et Maëline. C'est un petit bijou à découvrir, tant cet homme a été une figure de son époque et dont on connaît encore hein, le travail avec les éditions Hachette. Si vous voulez en savoir plus, hein, il suffit de cliquer sur hachette-livre.fr ou sur les éditions Marabule, hein, qui est là une des collections de la maison mère des éditions Hachette.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et nous arrivons au terme de l'émission. Alors pour moi de vous rappeler que nous étions avec Charlotte Monégier pour son roman Le Passage du Nord-Ouest, paru aux éditions Kahneman-Lévy. Puis nous avons évoqué la littérature jeunesse avec Gaspard et Hamlet, paru aux éditions La Joie de Lire. Trois fois rien, également paru aux éditions La Joie de Lire. Quant aux éditions La Matinière Jeunesse, vous propose Mes Vacances Presque Ratées. Et au Seuil Jeunesse, Pas Encore une Histoire de Sorcière. Quant à la bande dessinée, les éditions Marabulle vous proposent Louis Achète, une émission qui se termine et que vous pouvez retrouver en podcast sur le site idfm98.fr. On va se quitter en musique. Alors pour moi de vous informer que lundi prochain, nous retrouverons une autre invitée des éditions Kahneman-Lévy. Il s'agit de Sylvie Perrenne pour son roman Mado des oiseaux. Alors je vous souhaite d'excellentes lectures et d'écoute sur les ondes d'IDFM Radio. À lundi prochain, même heure, même endroit. Et on se quitte avec les Enfoirés et leur titre, Tout se casse. Au revoir.
Moi, je fuis la rancœur à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir. Mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
Venez fermer. T'as touché le fond, entendu.
La machine à penser est cassée.
C'est l'histoire des enfoirés.
Les restos du cœur serré.
Les hirondelles bénévoles, mais je les assez.
Si tu crois qu'on a trop rêvé.
Ou si tu crois qu'on a trop pleuré.
Presque tout l'alphabet.
A, B, C, D, E, F, G. Déjà 40 ans.
On m'a trop tiré sur la corde du passé.
J'ai déjà déchanté dans le regard d'un enfant.
Chance.
Un rendez-vous pris en